Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. En février 2022, j'ai interviewé ma femme d'aujourd'hui. 4 ans après, où en est-elle avec son changement de cap de vie? Eh bien, je vous propose d'aller prendre de ses nouvelles. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Aziza Brada, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être une nouvelle fois ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va aller, Aziza?
Ça va très bien, alhamdoulilah. Merci beaucoup et merci encore une fois de cette nouvelle invitation dans les femmes d'aujourd'hui. Merci.
Alors, ça fait exactement 4 ans qu'on s'est parlé.
Waouh!
Waouh! Exact. C'était en 2022, 23, 24, 25, 26. C'était février 2022 et on est, on est mars 2026. Et donc voilà, en fait, ça fait exactement 4 ans. Et à ce moment-là, je pense, tu avais commencé à fabriquer des chapelets, des tsabih.
Exactement.
Et c'était le tout début de Nia Soufi.
Exactement, c'était en tout cas le début à plein temps. Parce que...
Le début à plein temps.
Voilà.
Alors, est-ce que tu peux rapidement rappeler le contexte et ensuite on va voir 4 ans après ce qui s'est passé. Vas-y.
Alors, le contexte, Nia Soufi donc, est née d'une envie de créer des tsabih personnalisés qui sont reliés à la personne. Et qui portent en eux une énergie, une intention particulière. Et donc, cette tsabih, à l'époque, il n'y avait pas du tout cette mode qu'il y a aujourd'hui, des pierres qu'on peut trouver partout, etc. Et donc, je me suis mise à fabriquer des tsabih, mais c'est venu vraiment tout seul, d'une manière assez extraordinaire. C'est venu à moi et voilà, l'histoire a commencé comme ça.
Mais quand tu dis à plein temps, c'est qu'avant, c'était pour le plaisir, c'était juste pour les proches.
En fait, quand le premier tsabih que j'ai créé, je l'ai créé pour moi. Et une amie l'a vu, et puis ça a commencé. Et puis le bouche à oreille, avant, j'avais un travail. J'étais dans le salariat, etc. Je suis architecte d'intérieur, donc j'ai travaillé dans l'archi. Donc il y avait quelque chose de beaucoup plus, on va dire, rationnel. Moins rohani. Et j'ai commencé à me former en énergétique et en même temps, vraiment, le premier tsabih, je ne l'ai pas fait pour vendre, je l'ai fait pour moi. Une amie l'a vu, elle l'a pris et puis ça a été le bouche à oreille jusqu'au jour où mon travail, à l'époque, je travaillais en tant que responsable pédagogique dans une école, j'avais fait le tour de la question et pour moi, c'était le bon moment de faire ce que j'aime, ce qui m'appelle, ce qui me nourrit à plein temps. Et c'était faire les tsabih, animer des ateliers, et puis faire des séances avec les personnes, etc., etc.
Alors ça, c'était en 2022, là où tu as sauté le pas, sortir du salariat pour rentrer dans un autre monde. On ne peut pas dire que tu es dans une forme d'entrepreneuriat. Ça serait réducteur de ce que tu fais, l'entrepreneuriat?
Je ne dirais pas que c'est réducteur parce qu'on entreprend. Du moment qu'on fait, on entreprend forcément.
Oui.
Après, c'est vrai que ce que je fais est assez particulier. Ce n'est pas forcément commun. Mais c'est une forme d'entrepreneuriat, ouais. Non, je ne trouve pas ça réducteur du
tout. Pourquoi je dis réducteur? Parce que, bon, bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est très noble, bien sûr. Voilà, moi, je suis moi-même, entre guillemets, entrepreneur freelance. Ouais. Mais toi, tu es très... Il y a ce côté spirituel dans ce que tu fais. Et
oui.
Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à associer avec une terminologie, on va dire, business, économie.
Parce que tu as tout à fait raison, parce qu'à la base, il n'y a jamais eu une réflexion d'un business économique, comme
ouais.
tu l'appelles. C'est vraiment un appel du cœur, telle une sommation, quelque chose qui vient des profondeurs de ce qu'on ressent. Et on ne peut pas faire autrement que d'entendre cet appel, que de répondre à cet appel. Et à partir de là, On entreprend pourquoi? Ben parce que les choses évoluent, elles se transforment et on va en parler. En 4 ans, il y a plein de choses qui se passent. Mais en même temps, ça reste hyper rohani. Donc, on est en lien avec quelque chose de subtil, on est en lien avec quelque chose qui nous dépasse, avec, on est en lien avec, avec notre foi, avec travailler de ses mains aussi, c'est quelque chose de particulier parce que on dit toujours que la main est l'extension du cœur, donc il y a cette vibration là aussi qui est extraordinaire.
Alors, 4 ans après, qu'est-ce qui s'est passé?
4 ans après, ben, je dirais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert un champ dans les ateliers de groupe que je n'animais pas avant. Donc là, c'est vrai que depuis à peu près un an, je fais, mais pareil, avec des thématiques particulières. Le dernier que j'ai animé s'appelle « Créer son potentiel ». Donc vraiment, c'est quelque chose, on reste dans ce domaine du subtil et du rohani. Et on continue à développer ce qui a du sens pour soi, en fait. Tout simplement, pour moi, c'est le primordial, c'est faire ce qui a du sens, en fait, vraiment. Et c'est pour ça que quand des personnes m'appellent pour me dire « Oui, mais moi, je veux juste un bracelet » ou « Je veux juste un collier », je les oriente vers d'autres personnes parce que ce n'est pas ce que je fais. Je fais des sabirs. Oui, on peut les porter en collier. Oui, on peut les porter en bracelet, mais ça reste que... ça porte cette vibration de tsabih et je le fais avec cette niya de tsabih. Donc, c'est pas la même chose.
Avec cette niya spirituelle, en fait.
Exactement.
Ouais, une charge spirituelle. Ouais.
Exact. Une charge spirituelle. Et puis, cette niya, elle s'exporte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne, elle va acheter un tsabih pour elle et puis elle va m'appeler, me dire, tu sais, j'ai rencontré une personne malade. Et puis, il y a une autre personne qui va faire un voyage en Mongolie et qui se retrouve à donner à une Mongole, etc., etc. Et donc, eux-mêmes ont leur propre cheminement. Et c'est assez extraordinaire de voir ça, en fait.
Quand ça sort de chez toi, ça ne veut pas dire forcément que ça va rester chez cette personne qui l'a commandé.
Non.
Ouais.
Et c'est vrai qu'au début, comme je faisais ma niya, c'était de faire chacun son tsabih, donc etc. Pour moi, ça allait rester à ce stade-là.
Oui.
Mais après, j'ai commencé, comme je viens de te dire, à recevoir des coups de fil de gens qui me disaient, mais en fait, à chaque fois que j'achète un tsabih de chez toi, il se retrouve chez quelqu'un qui en a encore plus de besoin que moi, ou comme je t'ai raconté, ben, en Mongolie ou là, ailleurs, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, tu le fais avec cette niya pour la personne, mais au brasso, il lit son chemin, en fait. Le tsabih choisit de cheminer et il chemine à travers il part chez d'autres personnes, ou un brasso est calédé chez Wahed, ou voilà, ils ont aussi leur propre cheminement intérieur, je veux dire.
Oui, oui. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ce cheminement en toi? Parce que tu as parlé d'un appel, il y a plus de 4 ans, un appel qu'on ne peut pas éteindre, qu'on ne peut pas étouffer, un appel intérieur. Mais est-ce que tu peux revenir à ces prémices, à ces débuts où tu ressentais quelque chose en toi, où il fallait que ça s'exprime, où tu ne comprenais peut-être pas trop parce que tu étais déjà installée dans une carrière, dans une façon de vivre?
C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je ne me suis jamais dit que j'allais en faire un métier, en tout cas, fabriquer des tsabih. Et donc, l'appel, c'était quoi? Bon, au tout début, ça venait de vouloir faire un cadeau à mon frère qui faisait du dhikr et je n'ai pas trouvé de tsabih à l'époque en pierre. Pourquoi en pierre? Parce que j'ai toujours eu un rapport particulier avec les pierres naturelles et semi précieuses. Et je voulais vraiment qu'il y ait ce lien-là. J'en ai pas trouvé. Après, c'est moi qui ai commencé à faire du dhikr. Je voulais me faire mon tsabih à moi. Et donc, j'ai ouvert un collier, j'ai posé le tsabih en bois et je l'ai fabriqué comme si j'avais fait ça toute ma vie. Et à partir de là, je me suis jamais dit, ben, tiens, je vais en faire un métier. Pas du tout. Je l'ai fabriqué comme je vais faire un dessin, comme je vais écrire un texte, comme je vais peindre une toile, parce que, ben, je suis architecte d'intérieur et donc, il y a une âme d'artiste quelque part en moi. Donc, à partir de là, une fois que le bouche à oreille, les gens commencent à m'appeler pour des tsabih, il y a un moment quand la vie telle que je la connaissais, c'est-à-dire rester métro boulot dodo comme on dit, ou la rester sur quelque chose de très dans la matière, ça ne me remplissait plus. J'avais besoin de plus. Et en faisant les tsabih, ce que je ressens, c'est ardent. C'est vraiment ce mot-là. C'est que je me sens mardiya de faire ça parce que je me dis, c'est extraordinaire de faire ça et de propager ça. Parce que même quand la personne, ben là, une foi qui n'est pas extraordinaire ou là qui est sur le chemin ou là qui n'est pas du tout sur le chemin, il y a le prémisse de quelque chose. Le fameux Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui est devenu aujourd'hui comme un tic de langage, c'est une porte, c'est une clé qui ouvre. Et bien, c'est un peu ça. C'est, tu te dis, tu fais du bien à ta hauteur, avec ce que tu peux, comme tu peux.
Oui.
Et c'est, j'allais dire, ça n'a pas de prix. Ça a le prix de parce que je fais tout toute seule, donc effectivement, j'ai des tensions au niveau de la nuque, de l'épaule, tout ce qu'on veut, il y a un travail rohani dedans, mais in fine, ça n'a pas de prix, parce que ça dépasse quelque chose, vendre un vêtement, ou même si tout est valeureux, chaque khidma ibada,
oui.
Il n'y a aucun jugement là-dessus,
oui.
Mais pour moi, ça n'a pas de prix.
Oui, oui, oui. Alors, justement, tu es passé d'un cadre, entre guillemets, métro-boulot-dodo, comme tu l'as très bien nommé, mais c'est aussi un cadre, une routine, repère, en fait, quoi qu'on en dise, à autre chose. Cette adaptation, parce que beaucoup de personnes qui changent de vie, en fait, pensent que cette liberté est facile à vivre. Elle a besoin aussi d'adaptation.
Elle a besoin d'adaptation, mais elle a besoin aussi de rigueur. C'est exactement comme notre foi, comme le dhikr. C'est entre nous et nous-mêmes et c'est derbi. Il y a pas la police qui vient de caler que je peux dire.
Oui.
Quand on travaille pour soi, c'est la même chose. C'est quelle exigence tu as envers toi pour bien faire ton travail, c'est la même chose. Pour le faire de qalb, c'est la même chose. Pour le faire avec une certaine ibada, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une exigence qui demande à aimer une certaine routine, mais que tu t'inculques à toi-même. Il n'y a personne qui va le faire pour toi.
C'est ça.
Et même quand tu es dans un boulot, entre guillemets, traditionnel ou la normale dans une entreprise, tu peux aller parce que tu es obligé d'y aller, parce que tu as besoin de ce salaire à la fin du mois, mais si tu n'y vas pas avec le cœur, si tu n'y vas pas avec l'envie de bien faire ou l'envie de bien compléter ton travail et tout, ben, in fine, ça n'a pas de sens, en fait.
Oui, exactement, exactement. Alors, Lala Aziza, qu'est-ce que tu as appris de toi ou sur toi à travers ces 4 années écoulées?
Que l'expression que j'ai envie de dire, c'est « dor tarja Allah ».
Oui.
C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, il y a des phases de doute qui sont totalement normales et qui font partie du processus. Parce que bien sûr, quand tu entreprends quelque chose, même si c'est rohani, ben, il faut gagner ta vie avec, il faut que tu puisses faire ce que tu as besoin de faire, etc. Et tu as des phases d'expansion, et des phases un peu plus calmes, et des phases de réflexion, des phases de doute. Et dans toutes ces phases-là, c'est ça, tarjal dek la ilaha illallah. Ça prend tout son sens. Et c'est vraiment... c'est ce qui accompagne notre avancée, c'est ce qui accompagne la manière dont on a envie d'entreprendre. C'est de se dire où est-ce que j'ai envie d'aller, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et quel sens ça a pour moi. Si ça a pour moi le sens de vouloir faire du bien et qu'à travers ce que je peux proposer à mon niveau, ça peut faire du bien, ne serait-ce qu'à une personne, alors j'ai fait quelque chose d'utile. Je peux, entre guillemets, mourir tranquille, comme on dit.
Comment avoir aussi cette sérénité que tu as face aux exigences matérielles de la vie?
Tawakkul. Tu sais, je me rappelle très bien quand on en a parlé la première fois,
oui.
Tu n'étais pas en phase de changement et on en a parlé et tu me disais que c'est vrai comment les gens font pour changer. Mais en fait, voilà, tu as sauté le pas et tu as bifurqué aussi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Il y a un moment où tu es obligé de répondre à l'appel et de tchoukal à Allah en te disant « je fais de mon mieux ». Je vais faire des expos, je vais faire des ateliers, je vais communiquer, je vais faire ce que je peux comme je peux à mon niveau.
Oui.
Et après,
aucun regret? Bien sûr que non.
Non.
Je réponds à ta place. Parce que je sens cette sérénité. Et je vais être honnête avec toi, j'ai l'impression que ta voix est encore plus vivante qu'il y a 4 ans quand on s'est parlé. Je la trouve rajeunie, en fait.
Waouh, merci pour ce retour. Ça me donne des frissons.
Je t'assure, je la trouve rajeunie, rafraîchie. J'avais l'impression d'avoir une...
Parce que j'ai plus d'assurance, j'ai moins peur, tu vois. Ça ne veut pas dire que je ne doute pas, encore une fois. Parfois, ça me donne le cœur, quand je dis « Oh là là, ma fille, elle va faire ». Donc, en fait, quand on a ce doute-là, qui est là, et qu'on se demande pourquoi on fait ce qu'on fait, et si ça a vraiment pleinement le sens, parce qu'il y a le côté matériel qui revient, parce qu'on est dans un monde de matière et qu'on a besoin de matière et d'argent pour, et ben, il y a une personne qui va m'envoyer un message de la Mecque pour me dire, voilà, avec une photo, voilà ton tsabih est entre mes mains, je prie pour toi. Ou il y a une personne qui est malade qui m'envoie, qui me dit, ton tsabih m'accompagne dans... sur le chemin de la guérison. Et là, je reviens à Dieu et je reviens à ce fameux tiawakul qu'on peut traduire comme faire confiance à plus grand que soi.
Oui, exact. Faire confiance à plus grand que soi. Alors, justement, c'est très bien que tu le dises, que tu mentionnes cette peur parce qu'elle est humaine. Et c'est ça, en fait, c'est que tout changement, et c'est ça qu'il faut accepter, c'est que tout changement arrive avec... en sortant de sa zone de confort, comme on le dit tout simplement, arrive avec des peurs, même si on est extrêmement convaincu. La peur peut être là au début, comme elle peut venir pendant des moments de doute. Et il faut l'accepter. Il ne faut pas avoir peur de cette peur.
Non, parce que ça fait partie du chemin. Il n'y a aucun chemin qui est dénué de peur. On reste humain avec nos complexités d'humain, de femme aussi, de maman, de... d'épouse parfois, etc. Et on a ces peurs-là font partie de la vie, mais une peur n'est pas là pour figer. Elle est là pour nous transporter, elle est là pour nous pousser à aller plus loin, elle est là pour nous dire ok, tu as peur et tu fais quoi? Tu restes figé, tu fais plus rien, tu stops. Qu'est-ce que tu fais exactement? Et c'est là où tu reprends confiance, tu remets une énergie constructive et tu avances.
Exact. Et tu avances. Absolument. Absolument. Alors, par rapport à tout ça aujourd'hui, justement, toi, en tant que femme d'aujourd'hui, tu te vois comment dans 4 ans, si on devait se reparler de ce parcours?
Très sincèrement, j'en ai aucune idée. Et à la limite, j'aimerais presque te dire, je n'ai pas envie de savoir comment je me vois. J'ai envie de me voir comme Dieu veut pour moi. J'ai envie de faire confiance encore plus. J'ai envie d'y croire encore plus. C'est vraiment de cheminer encore plus profondément, encore plus avec cette envie de toujours bien faire, mieux faire, d'aider soi-même, aider l'autre. Tout ça, ce sont des valeurs qui me portent. Sous quelle forme, de quelle manière, je n'ai pas la réponse.
Alors, tu trouves que c'est beau ou est-ce que ça fait peur aussi un peu?
Ça fait peur quand on y réfléchit avec la tête, bien
sûr. Exactement.
Complètement.
Ouais.
Mais en même temps, c'est beau parce qu'en vrai, on a cette sensation de contrôler notre vie. Mais c'est une illusion, c'est pas vrai.
Tout à fait.
C'est une illusion et je ne veux plus vivre dans l'illusion.
Ouais, ouais. Tu sais, ce que tu dis me touche énormément parce que ça se connecte beaucoup à moi parce que, voilà, quand cette peur me prend, je me dis, mais tu as l'impression de contrôler ta vie ou tu as l'impression de contrôler ta vie dans un autre contexte, que tu as ce contrôle alors que non, en réalité, tu l'as jamais ce contrôle. Donc là, tu le vois
Jamais.
davantage que tu l'as pas ce
C'est ça.
contrôle. Ça devient juste
C'est ça.
encore plus évident. Mais la notion de contrôler sa vie, c'est faux.
Une illusion.
C'est une illusion.
Notre besoin de sécurité en tant qu'humain veut ça. Et on a toujours grandi en nous disant oui, tu te projettes, tu fais ça, le bilan sur 5 ans, je sais pas quoi. Mais le Covid nous a rappelé à l'ordre, clairement, en nous disant ouh. Il n'y a ni 5 ans, ni 10 ans. Il y a là, maintenant, tout de suite. Mais quand on fait quelque chose de spirituel ou là qu'on tient à vivre notre vie avec des valeurs profondes et tout est juste et tout est, comment dire, tout est juste dans le sens, tout prend un sens, vraiment, plus ça va, moins je sais.
Oui, exact. Et c'est pas grave parce que c'est la vie.
Et c'est pas grave parce que c'est la vie. Et oui, j'ai peur, mais j'apprends à composer avec en faisant confiance à plus grand.
À plus grand, absolument.
Et ça me pousse encore une fois à faire confiance encore plus. Je dis, OK, aujourd'hui, pour l'instant, c'est comme ça. Mais en vrai, demain, je ne sais pas.
Je sais pas.
Qui m'aurait dit que, par exemple, Yasmine allait m'appeler pour personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a toujours sur notre chemin des choses qui viennent à un moment donné, parce que c'est le bon moment. Faisons confiance.
Absolument. Et bien sûr, ces paroles pleines de sagesse et de douceur, je te remercie, Aziza Barada, d'avoir une nouvelle fois été ma femme d'aujourd'hui, de nous avoir donné de tes nouvelles 4 ans après ce changement de vie que tu as entamé, ce virage que tu as entamé en 2022.
Merci beaucoup à toi, Yasmine, d'avoir réouvert cette porte et de pouvoir tout simplement propager ces belles ondes des différentes femmes à travers tout le Maroc.
Merci beaucoup, Aziza. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.